Message de Dürr Zickens. Le thème, chair et esprit. Le noyau de l'évangile de Dieu et de son Fils est Christ parmi vous. C'est de cela qu'il s'agit. L'espoir de la gloire. Qu'est-ce qu'un chrétien? Que signifie le mot « oint » ? Je lis Romains 8, 5 à 9. Ceux qui vivent selon la chair, retenez-le bien, quand on parle dans la Bible de chair, c'est de l'homme qu'il s'agit, de l'homme naturel. C'est cela la chair. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit désirent ce qui est spirituel. Car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puisque le désir de la chair est inimitié contre Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Et maintenant, vient le fameux verset, « Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. » Beaucoup d'annonces de décès portent comme en tête « Le Seigneur est mon berger. » Et les gens chantent avec conviction. J'appartiens à Jésus, cela me réjouit le cœur. Mais qu'est-il écrit ici? Il s'agit d'être baptisé avec l'Esprit du Christ, baptisé par immersion. C'est cela, être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu fais alors partie de son corps spirituel. Regarde ce microphone. Il ne contient pas mon esprit. Il ne m'appartient pas non plus. C'est la même chose pour le sol, le pupitre et pour vous. Mon esprit ne se trouve que dans mon corps. Donc, l'esprit du Christ agit dans son corps. Il en fait partie. Oui, tu es un oint. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. C'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Je vais essayer de bien l'expliquer. Il devint une âme vivante. Il y a là le mot « psyché ». Mais la réalité finale à laquelle aboutit finalement le dernier Adam, est un esprit vivifiant. Et là, ne se trouve plus le mot « psyché », mais bien le mot « pneuma. Il y a là un lien avec la respiration, l'air, le vent. Pense à ruach, le mot hébreu pour souffle et esprit. Donc, psyché et pneuma. Psyché s'applique à l'homme naturel. Pneuma à l'homme spirituel et le premier Adam final. C'était Jésus, l'homme tel que Dieu le voulait et le désirait, son image. Et après, il y eut Pierre, Jean, Paul, etc. Ils devinrent tous des Adam final. Le but important est l'homme final de Dieu. Non, le spirituel ne vient pas en premier, mais le naturel. Mais celui qui a acquis une certaine maturité, sait réfléchir aux choses spirituelles. Il se dit, tiens, il y a encore un autre monde. Le premier homme est de la terre, matérielle, pure nature, mais le second est du ciel. Remarquez bien, du ciel. Cela signifie originaire de. Telle la matière, telle les charnels. Eh bien, j'estime que j'ai été assez longtemps charnel. Et tel le céleste, tels les célestes. Donc, ici j'ai affaire à des célestes. As-tu déjà employé ce terme par rapport à toi-même? Je suis un céleste, un homme céleste. Je viens de là. Mon origine est là. Ma nouvelle naissance, ma régénération. Littéralement, il y a « né d'en haut ». Je suis à présent un homme céleste. Vient maintenant la chose importante. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, passé composé, nous porterons aussi l'image du céleste, futur simple. C'est dans ce processus que nous nous trouvons. Donc, aussi intéressante que puisse être ma vie naturelle, est-elle aussi intéressante pour le royaume de Dieu? Que j'aime les arts, le jazz, les tableaux, que j'aime me promener sur la plage ou que je ne l'aime pas, tout cela n'est d'aucune importance pour le royaume de Dieu. Quelqu'un l'a dit très clairement, la chair n'est d'aucune utilité. Et qui a dit cela? Jésus lui-même. Le savais-tu? La chair n'est d'aucune utilité. Je vais l'expliquer encore un peu plus. Il s'agit donc de ce second homme, et non du premier. Car ce qui est né de l'esprit, c'est ce que je suis. Esprit. Ou bien spirituel. Ce n'est donc pas de la chair embellie. Je vais encore le dire d'une autre manière. Dans 2 Timothée 2, 20, il y a, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il en est aussi de bois et d'argile. Les uns sont réservés aux usages nobles, les autres aux usages vulgaires. Et maintenant, vient l'important. Si donc quelqu'un se préserve des fautes dont je parle, de quelles fautes? De cette destination moins digne. Il n'y a pas d'honneur à en tirer. Tu as des chrétiens qui disent être baptisés du Saint-Esprit, mais malgré leur affirmation, il n'y a pas d'honneur à en tirer. Ils parlent continuellement de choses naturelles, de questions familiales, du boire et du manger, de leur maison et autres possessions. Il y a une contradiction entre leur façon d'agir et le fait d'être chrétien. La chair n'a pas d'utilité. Si tu es purifié de ces choses-là, alors tu seras un objet d'usage noble, avec une destination noble, dans le temple, sanctifié et utile au propriétaire. On ne peut plus clair. Sinon, tu es inutile au propriétaire. L'homme naturel opposé à l'esprit. Je crois que si tu vis cette vie céleste, tu deviens de toi-même un homme bon. Là n'est pas le point, non. Tu as de ces gens de bois et d'argile. Le bois a contenu de la vie et l'argile est tirée de la terre. Paul sait très bien quelle image il emploie. Il y a des chrétiens terrestres et des célestes. Les chrétiens terrestres prient pour avoir une vie tranquille sur la terre, pour que tout s'y passe bien. Une vie naturelle sans être dérangée. Eh bien, la vie de Jésus fut bien souvent dérangée sur la terre. Mais ceux qui prient dans l'esprit, ceux-là sont toujours occupés spirituellement. Dieu l'est aussi. Il prie aussi, déjà toute sa vie. Prier, c'est être actif en acte et en parole dans le ciel. Là, dans le monde spirituel, se trouve ton terrain de travail. Toutes sortes de thérapies ont le droit d'exister. Il n'y a rien de mal à cela, vraiment pas. Mais la guérison vient de l'esprit. La guérison de la vie de ton âme vient de l'esprit. Regarde, Le baron que j'étais, celui-là, est mort. Oui, heureusement. Mais ce qui en est sorti, c'est celui que je suis à présent. Le Christ vit en moi. C'est mon véritable moi. Puis-je l'exprimer de cette façon? Mon vrai moi a surgi. Et qu'est-ce que tu obtiens? Tu as alors la nature divine. Autrefois, je devais étudier le cube des caractères du professeur Evans. 8 différentes sortes de caractères. Peut-être les connais-tu encore. Le flegmatique, le colérique, etc. Et avec toutes les formes intermédiaires en plus. Il fallait classer les hommes en catégories. Tu leur collais une étiquette. Maintenant, je pose la question. Quel était le caractère d'Abraham? Quel était le caractère de Jérémie? Oui, c'est une drôle de question. Quel était le caractère de Jean? Pas d'idée. Et celui de Matthieu? Que savons-nous de leur caractère naturel? Rien du tout. Ce n'est d'ailleurs pas intéressant. Que savons-nous du caractère naturel de Jésus? En effet, c'est une drôle de question. Bien sûr que ce n'est pas intéressant. Tant de gens aimeraient connaître un Jésus naturel. Quelle était son apparence? Quels vêtements il portait? Avait-il une barbe? Quelle était la couleur de ses yeux? Ce sont des choses inutiles à savoir. Dans la Bible, on ne lit jamais rien sur le caractère des gens. Marie, que sait-on d'elle? Que sait-on de son caractère? Mais ils ont tous manifesté des propriétés caractérielles de Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut entendre ce qu'ils disent et savoir ce qu'ils ont souffert pour pouvoir dire ce qu'ils ont dit. Donc, il ne s'agit pas de savoir toutes sortes de curiosités sur toutes sortes de personnes qui ont vécu, mais bien que l'essence de Dieu se manifeste. Que savons-nous du caractère de l'ancêtre Jacob? Oui, ce fut quelqu'un de tenace, de persévérant. Formidable. Tu le voyais arriver de loin, il boitait. Oh, voilà Jacob. Il avait toujours une canne. Lorsqu'il mourut, il s'appuyait sur sa canne. Mais que fait Dieu? Quelle que soit l'imperfection de ton caractère, n'y change rien, car Dieu atteint son but avec des gens qui ont des défauts, à qui manque quelque chose. Je vais le dire autrement, avec des gens imparfaits. C'est de cette façon que Dieu atteint son but et réalise son plan, je vous l'assure. Tu ne veux tout de même pas d'abord devenir une personne naturelle parfaite? Un marron tout luisant et astiqué, ou une chenille avec des ailes en plastique. Ce n'est tout de même pas cela que vous voulez. Puis-je le dire d'une façon plus mordante? Je cite Paul. « Tu ne vis pas pour toi-même, dit-il. Eh bien, je rencontre des centaines de personnes qui ne font que vivre pour elles-mêmes. Le sujet le plus important de leur conversation tourne toujours autour d'eux-mêmes. Lisez donc 1 Corinthiens 2, 10. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Tu n'y accèdes pas par toi-même. Ésaïe dit quelque part, le chemin d'un homme n'est pas inscrit en lui. L'Esprit sonde toutes choses. Et maintenant, vient ce qui est très important, jusqu'aux profondeurs de Dieu, les pensées les plus profondes de Dieu, et cet esprit est en toi. Donc, quand tu parles en langue, que cherches-tu? Les trésors de Dieu, les mystères de son royaume, dont Jésus parlait continuellement, que ce soit sous forme de parabole ou autrement. Qui parmi les hommes sait ce qui se passe en l'homme, sinon son propre esprit qui réside en lui? Oui, en effet, je sais mieux que n'importe qui ce qui vit en moi et ma femme. Évidemment, quand vous êtes beaucoup ensemble, vous apprenez à vous connaître fort bien. Il en va de même avec le Père. Donc, ces trésors, vous les cherchez dans l'autre. Vous faites sortir les belles choses. Voilà ce que vous faites. Je dirais, nous nous préoccupons d'autres choses. Si je sais ce qui vit en moi, il s'agit de psychologie. Cela concerne l'homme psychique. Mais toute la psychologie ne m'a pas amené au Seigneur. Ainsi, personne ne sait ce qui est en Dieu, sinon l'Esprit lui-même. Celui-là le sait. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Disons, l'Esprit de la psychologie. Mais bien l'Esprit de Dieu, afin que nous sachions ce qui nous est offert. Cet Esprit est mis en nous de l'extérieur. À partir de ce moment, nous ne parlons plus avec la sagesse humaine, mais avec la sagesse de l'Esprit. Car l'Esprit, afin que nous puissions comparer le spirituel avec le spirituel. Cela s'y trouve si clairement écrit. Qui d'entre nous n'a pas de manquement? Il peut se redresser. N'est-ce pas merveilleux que Dieu dit « C'est moi qui m'en occuperai ». Je trouve ça tellement beau. En moi aussi, il y a encore beaucoup à améliorer, mais j'ai constaté que cela se fait spontanément. Si tu t'approfondis dans les idées de Dieu, tu deviendras spontanément une personne équilibrée. Je l'ai constaté chez plusieurs personnes. Plus on s'approfondit dans des conversations mutuelles, dans les idées de Dieu, plus on constate que tout brusquement, quelqu'un s'épanouit. Quelle merveille! Il ne s'agit donc pas de s'acharner indéfiniment à atteindre son épanouissement personnel. Je l'ai même trouvé dans une encyclopédie chrétienne. On y parlait de l'espoir qu'il ne s'agisse point de l'épanouissement de soi-même, mais bien de la réalisation du royaume de Dieu en toi. C'est là que Dieu a commencé son travail. Donc, quand tu pries que ton royaume arrive, il ne s'agit pas de quelque chose qui te tomberait du ciel. Non, il est à l'intérieur de toi, et tu pries qu'il se manifeste à partir de toi, à partir de nous. C'est vraiment beau. Il ne s'agit donc vraiment pas de l'homme terrestre Jésus. Il était ici-bas incognito. Ce qui s'est bien passé, c'est qu'après sa résurrection, il est apparu sous différentes formes, toujours sous différentes apparences humaines, aussi vécu différemment, je pense. Pourquoi apparaissait-il ainsi à ses disciples? Parce qu'il ne voulait pas être reconnu dans le monde naturel, mais dans le spirituel. Me reconnais-tu? Et me reconnais-tu dans l'esprit? C'est pourquoi cela m'est bien égal que tu portes des lunettes ou n'en portes pas. Que tu sois beau ou laid, je m'en fiche. Que tu sois une étoile intellectuelle ou n'en sois pas, cela ne m'intéresse pas du tout. M'intéresse, au contraire, ce qui vit en toi, que je puisse te reconnaître comme quelqu'un qui a le même Seigneur que moi. Ce Seigneur est-il le Christ? Est-ce que je reconnais là mon frère? Tu peux parfois être tellement surpris au sein d'une conversation avec quelqu'un que tu dis que c'est beau. Cette personne croit exactement comme moi. Alors, tu lui tends la main et tu dis « frère ». Mais ce dont il s'agit, c'est de reconnaître en lui l'homme de Dieu. Au moment de ma mort, je perdrai mon corps terrestre, et celui-là ne continuera pas à se développer dans le ciel. Pour reprendre l'image que j'ai déjà employée, c'est de l'arbre qu'il s'agit, non du marron. Mon corps de résurrection, ma forme d'apparence spirituelle, elle est éternelle. Jésus apparaît à chaque fois sous une apparence humaine différente. Pensez aux disciples d'Emmaüs. Le Christ marchait à côté d'eux. Ami, que s'est-il donc passé? Tu ne le sais pas? Raconte. Et il lui raconte ce qui leur est arrivé et que l'on avait crucifié Jésus. Mais ils ne reconnurent pas l'étranger qui leur parlait. Jésus leur apparut sous une autre apparence et il leur posait des questions. Il leur disait, « Je vais encore une fois vous l'expliquer. » Et en commençant par Moïse, il donnait une étude biblique aux disciples d'Emmaüs. Leurs yeux étaient voilés. C'est ce qui se trouve écrit. Ma question, reconnais-tu le Christ dans les autres, ou tes yeux sont-ils aussi voilés? Connais-tu cette expérience-là? Il peut arriver d'être tellement pris par quelque chose, par la tristesse par exemple, que tes yeux se voilent, que tu ne sais plus rien voir. Ce fut le cas des disciples d'Emmaüs. Ils étaient entièrement enfermés dans leur tristesse. Dans un moment pareil, tu es tout à fait hypnotisé. Tu es tellement préoccupé par quelque chose que tu n'entends et ne vois plus rien. Ou par ton travail complètement accaparé par lui, ou par des problèmes familiaux, tout à fait prisonnier. Tu ne vois plus rien. Pense à Ève, tout à fait hypnotisée par le serpent. Elle n'était plus consciente de rien. Je l'ai une fois recherché, le mot eux-mêmes signifiait « sans connaissance ». Et je trouve ça très juste. Tu n'es plus conscient de qui tu es. Tu n'es plus conscient qui est l'autre. Les disciples ne le voyaient pas. Et le plus fort, Marie de Magdala court au cimetière et brusquement, quelqu'un se trouve devant elle. C'est notre Seigneur sous une autre stature humaine. Et elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Mais elle ne croyait pas en la résurrection. Car elle dit, « Veux-tu me dire où ils l'ont mis ?» Voilà ce qu'elle demande. Et Jésus dit alors quelque chose de remarquable. Et maintenant tu vas comprendre. « Ne me touche pas, » dit-il. « Qu'en penses-tu ? Ne me touche pas. » Non, ne confondons pas le Christ avec cet homme qui se trouve devant toi, cet homme naturel. Tu as des croyants qui suivent des personnes parce qu'elles ont quelque chose de spécial. Il faut que je vous dise tout de même ceci, comme avertissement. Méfiez-vous, ne courez pas après l'un ou l'autre de ces guérisseurs itinérants, car si tu fais cela, je me dis, comment avoir si peu de confiance en tes frères et sœurs qui sont autour de toi. Jésus dit à Marie, « Ne me touche pas. » Et il dit ensuite, « Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Après cela, tu pourras me toucher. Il s'agit de cet invisible. Et à ce moment-là, c'est lui qui te touche. Tu saisis? Donc, la vie naturelle de Jésus est à peine intéressante. Ce savoir ne me sert à rien. Donc, regardez-vous spirituellement. Qu'est-ce qui vit en toi? Et tu demandes, dis-moi ce qui te préoccupe. Vis-tu du produit de la terre ou du pain du ciel? Le peuple d'Israël traversa le désert et quelle sorte de pluie tomba sur eux? Du blé du ciel, des grains, des céréales. Il est aussi écrit du pain des anges. Donc, es-tu de la terre ou fais-tu partie des céréales du ciel? Un autre mot est la manne. Et ce mot signifie qu'est-ce que c'est? C'est sa signification. Ce ne fut pas un produit de la terre. Quand elle tomba pour la première fois sur le champ des Israélites et qu'ils la découvrirent le lendemain matin, ils furent étonnés. Ils avaient déjà souspecté. Nous n'avons pas de viande à manger, car le peuple voulait de la viande. La viande, c'est vraiment quelque chose de la terre, non? Cette manne, qu'est-ce que c'était? Ils n'en avaient jamais vu. Moi aussi, je me serais posé la même question. Et Jésus dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Donc, que disaient les gens de lui? Qui est-ce? C'est logique. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Il y avait de ces gens de la terre qui disaient, « C'est ce drôle de fils du menuisier de Nazareth. » Il parlait de son origine naturelle. D'où viens-tu? À quelle famille appartiens-tu? Mais les gens qui voyaient réellement qui il était, ses disciples, reconnaissaient qu'il était un enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Leurs yeux s'étaient ouverts. Ils étaient encore curieux d'en savoir plus à ce sujet. Oh, combien de choses Jésus n'a-t-il pas expliqué? Donc, ne cherchez pas vos liens mutuels dans le monde naturel de la chair, car dans ce cas, l'adieu devient terrible. Le lien spirituel, celui-là, reste. Dans 2 Corinthiens 5, verset 16, il y a « Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Personne. Je ne veux plus te reconnaître selon la chair. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te motive? De quoi te préoccupes-tu? C'est cela que Jésus demande. » Façon de parler. C'est aussi ce que le Père te demande. Qu'est-ce qui te préoccupe? Si nous avons connu Jésus selon la chair, il y avait de ces flemmards qui disaient « Oui, oui, je l'ai encore vu à l'époque où il vivait. » Vraiment, tu l'as encore vraiment vu et touché? Et un tas de questions de ce genre-là. Mais plus maintenant, c'est fini. Ainsi, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et en grec, il ne se trouve pas écrit « l'ancien », mais « l'ancienne ». L'ancienne création est donc passée. Oui, je m'en suis débarrassé à mon baptême, disais-je. Et la nouvelle vie est venue et elle se manifeste. Car l'Esprit qui est actif en nous tous fait de nous des hommes selon l'image de Dieu. C'est cela son travail. Veux-tu ressembler à Dieu? D'après l'image de Dieu, des hommes de Dieu. « Homme » est un mot latin. Il signifie littéralement « esprit ». Faisons donc des êtres spirituels qui nous ressemblent. Et maintenant, vous l'aurez compris, il s'agit d'êtres spirituels, car cela ressemble à Dieu. C'est ce que tu es. Donc, es-tu un homme naturel, psychique, ou bien un homme spirituel? Pneumatique, un homme de Dieu. C'est un processus qui commence dans le tout petit. Cela se trouve dans Hébreux 6, 1. Les principes du Christ et ces principes de la vie spirituelle se développent en vous. C'est une chose tellement belle que Dieu l'a désirée depuis toujours. Et le premier qu'il trouva pour le réaliser fut Jésus. C'est son nom terrestre, non? Quel nom a-t-il dans le ciel? J'ai aussi un nom terrestre, mais mon nouveau nom, je ne le dis à personne, car il s'agit d'un processus de développement. Le donneur le connaît et aussi celui qui le reçoit. Tu remarques tout simplement que c'est un processus de développement. Et il apparaît à la fois que chaque nom est différent, parce qu'ils vont tous manifester une qualité caractérielle de Dieu, même plusieurs, De cette façon, Dieu s'épanouit en l'homme. N'est-ce pas beau cela? Et si tu veux me rendre intensément heureux, même jusqu'à m'émouvoir, attise cela en toi et en l'autre. C'est cela que j'appelle la vie communautaire. Peu importe s'il y a du café ou pas de café après le culte, parce que c'est du dialogue qu'il s'agit. Tu comprends bien ce que je veux dire. Si tu attises cela entre vous, la communauté ne doit pas être un organisme parfait. Sinon, la vie qui est en elle disparaît. Celle des Galates s'était détruite à cause de cela. Ils étaient parfaits dans la chair, dans le naturel. Paul dit, « Êtes-vous devenu fou ? Vous ne savez plus du tout ce que vous êtes en train de faire. Il s'agit que l'espoir, ce que Dieu espère, soit attisé en vous, que vous vous y incitiez mutuellement. » Je vais l'illustrer par une image tirée d'un psaume. Le psaume 68, 14e verset. On y emploie l'image du pigeon. Et l'on dit quelque peu à l'ancienne, « N'étais-tu pas tombé entre les cages ?» Une autre traduction parle de « débris ». Tu la vois, cette petite colombe, le cou brisé, entre les débris de son existence. Tu regardes ton passé et tu te dis, « Combien de choses n'ont pas été détruites dans ma vie ?» Je me trouve entre les débris. Quelle tristesse! Quel désespoir! Mais cette tourterelle, il s'agit ici d'une tourterelle, elle a entendu quelque chose. Et maintenant, c'est cela qui est important. Les ailes de la colombe se couvrent d'argent et ses plumes d'un reflet d'or pâle. Quelle métamorphose! Comment est-ce possible? Une petite colombe si misérable, presque morte, et puis elle est là, recouverte d'or. C'est une magnifique image de la foi de Dieu. Dieu croit en sa création, et l'argent est toujours une image de la parole. Des paroles de la parole de Dieu, couvertes d'or et d'argent. Cela produit une magnifique tourterelle. C'est de cette façon que chaque homme peut être revêtu par le Père Céleste. Et la vois-tu là, volée? Qu'en penses-tu? À ce moment-là, Dieu a aussi les larmes aux yeux. Plus de tristesse, mais bien de joie. Ces hommes régénérés s'en vont, le vent sous les ailes, vers la demeure de leur Père, le pigeonnier. Ésaïe, surpris par une vision, dit, qu'est-ce qu'il y a là qui vole comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier? N'est-ce pas beau cela? Ésaïe 68. Un tas de pigeons en route vers leur pigeonnier. C'est de nous qu'il s'agit. De retour chez toi, à ton origine, dans ton nid. C'est beau, non? Pour moi, c'est le noyau de l'Évangile, tu sais. Jour et nuit, ton esprit en est accaparé. Tu ne cesses d'y penser et d'en parler. C'est cela, vivre. Ainsi, l'homme véritable de Dieu se manifeste. L'homme qui ressemble au Père. Et c'est notre Seigneur Jésus qui s'en est chargé, parce qu'il t'aime tellement. Prière. Père, je prie pour que nous puissions mutuellement aviver votre attente en nous. Amen.